Chapitre 3. Charles, ayant traversé le hameau, s'arrêta à l'entrée du sentier des saules. Il s'adossa au tronc noueux et trapu de l'un des arbres et resta longtemps immobile à méditer. « C'est bien cela, murmura-t-il enfin. Ma vraie vocation pour le moment, c'est de travailler au mariage d'Étienne. Mais il faut savoir tout d'abord ce qu'en pense le grand-père. » Et il se mit à gravir le sentier avec autant d'élan que s'il se fût agi d'emporter une redoute à la baïonnette. « Bonjour, monsieur Vadien » cria-t-il en soulevant son chapeau de plus loin qu'il aperçut le vieillard. Le père Félix, assis sur le banc à côté de la porte, raccommodait un panier. Il sourit en voyant Charles monter la côte au pas accéléré. « Jambes et souffle de 20 ans, dit-il. « Pas si jeune que ça, pourtant, répondit Charles en tordant sa moustache. « Voyons, père Félix, sincèrement, quand vous me regardez avec attention, ne me prendriez-vous pas pour un homme de 30 ? C'est mon ambition, voyez-vous. Deux dizaines, ça n'a aucun poids dans la balance des jugements du monde. 3, c'est déjà respectable. Dire que je me suis fait bronzer par le soleil d'Italie, que je choisis toujours des cravates sérieuses et que, cependant, je ne réussis pas à faire illusion. Je vais me mettre à porter des lunettes, parole d'honneur. « Les années viendront assez tôt, n'ayez crainte, dit Félix. Asseyez-vous, monsieur, et excusez-moi si je vous laisse une minute. » Il disparut dans la maison, mais revint bientôt, apportant sur une petite table de sapin un plateau chargé de 2 verres, d'une bouteille de vin blanc et d'une appétissante galette de ménage. « Vraiment, dit Charles, je suis honteux de me restaurer toujours à vos dépens. J'ai faim et soif, je l'avoue, et si je l'avais osé, j'aurais demandé un morceau de pain au père d'Étienne. Mais il n'est pas engageant, le brave homme. » Et Charles, dont le talent d'imitation faisait la joie de ses amis, reproduisit la petite scène de tout à l'heure, contrefaisant le ton de Clézide et sa grimace. Le père Félix ne put s'empêcher de rire. « C'est bien ça, dit-il, mais il faut l'excuser, voyez-vous. Clézide est tout brave au fond, seulement il a de petites manies. Sa famille lui a donné du mal à élever et il a pris des habitudes d'économie qu'il a peut-être tort de garder, maintenant qu'elles ne sont plus nécessaires. Au fond, comme je vous le dis, il a bon cœur. C'est possible, mais je suis charmé que le fils tienne fort peu du père. Ce garçon-là me plaît. À bon droit, monsieur, et vous n'êtes pas le seul à voir son mérite. » Le vieillard s'accouda en poussant un soupir, dont Charles devina aussitôt le sens. « Est-ce que vous lui donneriez votre joyeuse ? Demanda-t-il sans embâge. Félix Vadien releva la tête et regarda son interlocuteur d'un air scandalisé. « Ne vous offensez pas, dit Charles qui ne se troublait jamais. Ma question peut vous sembler étrange, mais vous allez voir qu'elle est au contraire fort naturelle. Hier, en rencontrant Étienne Leroux avec votre petite fille, aujourd'hui encore, dans une promenade que j'ai faite avec lui, j'ai pu voir qu'il aime Mademoiselle Cécile et serait heureux de devenir son mari. Je vous parle là en style de notaire, c'est pour aller plus vite. Mademoiselle Cécile n'a pas l'air trop décidée. Il faut qu'elle se décide et c'est à quoi je serais bien aise de m'employer, n'ayant rien d'autre à faire pour le moment. Mais avant de tracer mon plan de campagne, je voulais savoir si vous n'avez pas d'objection. » Et Charles, bien persuadé qu'il avait fait là le discours le plus sensé, un vrai discours d'homme d'affaires, se renversa contre le dossier de sa chaise, regardant le père Félix bien en face, de ses yeux où brillaient à la fois le caprice et la franchise. « Vrai, dit Félix Vadien, vous êtes un jeune homme étonnant. » Charles s'inclina pour reconnaître le compliment et attendit la suite. « De quel droit, poursuivit le vieillard en s'échauffant un peu, de quel droit vous mêlez-vous des affaires d'Étienne et de Cécile ?»« De quel droit ? Mais simplement parce que je m'y intéresse. Et puis je vous demandais ce que vous comptez faire ?»« Oh, pour cela, je n'en sais rien. L'ouvrage montre, comme on dit sagement à la Brévine. Je verrai. Ne me regardez pas comme si j'étais quelque phénomène naturel, une pomme de terre gigantesque ou tout autre légume d'exposition. » Accordez-moi seulement un peu de cette sympathie que vous répandez sur tous vos voisins. Ne me retirez pas le seul intérêt qui, pour le moment, me rattache à l'existence. » Le jeune homme s'était levé en prononçant ces derniers mots d'un ton fatal. Il se rassit en riant quand il vit l'air consterné de son interlocuteur. « Vous auriez tort de me prendre au grand tragique. Je suis un être décevant, » fit-il en secouant la tête, comme s'il s'agissait de tout autre que de lui-même. « Mais je vais vous soumettre mon cas, vous déciderez ensuite. Tel que vous me voyez, la philanthropie me dévore. Ce désir incessant de donner un coup de main à mon prochain dans la peine m'a déjà entraîné dans nombre de complications et d'aventures. Comme je vous l'ai dit hier, je cherche encore ma vocation, et tous les loisirs que me laisse ce soin, je les emploie de bons offices. » En voyant Étienne tout attristé ce matin par le départ de votre joyeuse, je me suis promis de lui aider. Est-ce que vous n'y consentirez pas ? Son ton était devenu grave. Félix Zadien considérait toujours l'étrange garçon sans rien dire. « Je crois, monsieur, reprit-il enfin, que vous ne vous permettriez pas une mauvaise plaisanterie envers un homme de mon âge. Parlez sérieusement. Je ne comprends rien à votre galimatias. » « Bon, dit Charles Guément, je vois que nous commençons à nous entendre, et j'en reviens à ma première question. Donneriez-vous volontiers votre Cécile à Étienne Leroux ?»« C'est mon plus grand désir, et je serai bien heureux le jour où elle dira oui. » »« À la bonne heure, je vous annonce maintenant que je me fais l'allié d'Étienne. Entre nous, c'est à la vie et à la mort, jusqu'au jour des fiançailles. » « Je ne sais trop ce que vous complotez, » dit le père Félix avec une nuance d'inquiétude. « Je crois que j'irai tout droit chercher Cécile pour la ramener à la maison. » Ce fut maintenant à Charles de paraître concerné. « Voilà un joli résultat, » fit-il en laissant retomber son verre sur la table. « Si j'avais deviné cela, je n'aurais rien dit, j'aurais poussé la cause d'Étienne sans vous consulter seulement. » Mais j'ai voulu faire la chose tout ouvertement, le cœur sur la main, et vous me traitez comme un renard dans un poulailler. Franchement, je méritais mieux. Je ne voudrais pas vous faire tort, dit Félix Zadien en regardant d'un air perplexe la physionomie changeante de son jeune visiteur. Peut-être que ça vient de mon ignorance des façons du monde, mais depuis un quart d'heure que vous vous expliquez, je ne comprends toujours pas. Dites-moi simplement ce que vous comptez faire. « Tout bonnement, dire à l'occasion deux mots à Mademoiselle Cécile en faveur d'Étienne. »« Je n'ai rien contre, » dit le père Félix, évidemment soulagé. « Mais pour en venir là, il ne valait pas la peine de faire tant d'embarras. » Charles Plaisance fut un peu mortifié. Il s'était imaginé conduire une négociation admirable qui lui ferait le plus grand honneur. « Peu importe, » dit-il en haussant les épaules, « nous voilà d'accord, c'est l'essentiel. » Mais je renonce à la diplomatie. Allons, fit-il au bout d'un moment en tirant sa montre. Il est temps que je me remette en route. Vous n'avez pas de message pour Mademoiselle Joyeuse ? Non, merci. Je la verrai dans 3 jours, car je suis de noces moi aussi. Ça me fait toujours plaisir de voir les jeunes s'amuser. Et puis, il me semble qu'on est plus sage que de mon temps, plus poli, mieux éduqué. Preuve que le monde ne marche pas à reculons, comme les vieux croient souvent. Va bien, va bien. Par ma foi, père Félix, vous êtes un brave homme, dit Charles en lui serrant la main. Au revoir, à bientôt. Félix Vadien reprit son travail interrompu et se mit à songer, non sans quelque inquiétude, aux intentions philanthropiques du jeune homme. Pourvu qu'en mettant le doigt dans la pâte, il n'aille pas tout gâter, pensait-il. Charles Plaisance, loin d'être tourmenté par de semblables doutes, sifflait joyeusement et roulait 1000 projets dans sa tête. Le chemin lui parut court. Lorsqu'il vit à ses pieds le toit gris de la ferme des Renault, il s'écria tout surpris « Déjà ?» Ce fut aussi l'exclamation dont on le salua. « Déjà ?» fit Joyeuse en l'apercevant. Elle étendait au soleil, sur le mur, le linge qu'elle venait de laver. « Est-ce trop tôt à votre gré, mademoiselle Cécile ?» demanda Charles, feignant d'être offensé. « Oh, bien sûr que non. Qu'est-ce que ça me fait à moi ? » dit-elle naïvement. « Seulement, on vous croyait parti pour toute la journée. Vous n'avez pas eu de malheur en route, j'espère ?»« Non, tout au plus un accident. » Elle tressaillit, effrayée. « Vous me paraissez en assez bon état, vous, » dit-elle d'un air de reproche. « Qu'est-il arrivé à Étienne ?»« Oh, peu de choses. Il a glissé au bord du torrent. Le courant l'a emporté, mais il a fini par reprendre pied et nous en avons été quittes pour la peur. Faut-il tout lui dire ? Se demandait Charles. Je n'ai pas juré le silence et quelques mots de plus produiront un heureux effet. Je puis bien ajouter, poursuivit-il, qu'Étienne Leroux n'est pas le garçon sensé que je croyais. Vous ne devineriez jamais la cause de son plongeon. Une petite branche de romarin qu'il semble considérer comme une relique et qui était malheureusement tombée à l'eau. Il voulut à toute force la sauver du naufrage et faillit se noyer dans cette noble entreprise. Joyeuse avait pâli. Sans répondre un mot, elle tourna le dos à Charles et se mit à enrouler nerveusement le bout de la corde sur laquelle son linge était étendu. Charles s'éloigna en se félicitant de ce coup habile. Madame Renaud accueillit maternellement le voyageur. Elle avait pour lui un faible très prononcé. C'était l'ami de son juste et il se laissait morigéner fort docilement, tout en sachant la faire rire quand elle y était le moins disposée. « Vous trouverez juste dans sa chambre, » dit-elle. « Il a travaillé toute la matinée à ces maudits plans que je voudrais voir au fond du lac. À quoi servent les vacances employées ainsi, je vous le demande. Montez vite, prenez-le sous le bras et faites qu'il sorte un moment. Le dîner sera prêt dans un quart d'heure. » Charles obéit, il grimpa l'escalier fermé au sommet par une trappe qui conduisait à l'étage supérieur. Il trouva Juste plongé dans des calculs difficiles auxquels il l'arracha. « Mon vieux, je viens en délégué avec plein pouvoir de l'autorité maternelle. Peut-on piocher quand on a un si beau rayon de soleil sur sa table ? Viens prendre l'air et presto, j'ai mille choses à te raconter. Sur ton poil, merci, je ne m'intéresse pas aux faïences, » dit Juste en passant les mains dans ses cheveux d'un air excédé. Un poil, il s'agit bien de cela. Je l'avais parfaitement oublié, ce poil. Notre expédition a manqué, mon cher. Tu en sembles fort réjoui. Je crois bien. Cet heureux contretemps m'a ouvert des horizons. J'ai devant moi une œuvre humanitaire et romantique à la fois. Aurais-tu par hasard découvert ta vocation ? Fit Juste avec un léger haussement d'épaule. Presque, du moins un intérêt, un... Quelques nouvelles toccades, sans doute. Mon cher, permets-moi de te dire candidement mon opinion sur ton cas. Tu es de fort mauvaise humeur. J'ai mal à la tête. La belle merveille, c'est le soleil qui se venge. Flanque-moi là les équations et le compas, prends ton chapeau et viens faire un tour par ordonnance maternelle. Juste allait refuser pour se plonger de nouveau dans ses calculs quand il se souvint que Charles était son hôte et s'ennuyait peut-être. « Allons-y gaiement, » dit-il en prenant le bras de son ami. En passant à l'angle du jardin, ils virent Joyeuse, toujours occupée à étendre sa lessive. Mais le panier à linge était encore rempli. On eût dit que la jeune fille n'y avait pas touché depuis le moment où Charles l'avait abordée. Elle se détourna quand les deux jeunes gens passèrent, ils ne purent voir son visage. « Je voudrais bien savoir à quoi elle pense, » se demanda Charles. « Est-ce à Étienne ou à l'autre ? Et qui est-il, cet autre ? Sans doute quelque vulgaire contrebandier qui se pommade chaque dimanche et boit de l'eau-de-vie à son déjeuner. » En cet instant, il se retourna presque involontairement. Joyeuse les suivait du regard. Ses yeux étaient rouges, son joli visage fort triste. Quand elle vit que Charles s'arrêtait, elle se cacha la figure dans son tablier bleu et s'enfuit en courant vers la maison. Les deux promeneurs arrivèrent bientôt au mur en pierre sèche qui marquait la limite du domaine Renaud. Un sorbier croissait là, au bord du chemin. Ses racines vigoureuses avaient soulevé le sol et fait dégringoler le mur dont les pierres grises et moussues s'éparpillaient alentour. « Arrêtons-nous ici, » dit Juste. « Ma mère nous appellera quand le dîner sera prêt. » Il se mit à califourchon sur la barrière, tandis que Charles s'asseyait au milieu de l'éboulement. « Que c'est donc joli, un vieux mur » fit-il en se penchant pour admirer les mignonnes végétations qui se baignaient autour de lui dans le soleil. « Regarde ces orpins avec leurs feuilles grasses, d'une pulpe si ferme et si fraîche qu'on y voudrait mordre, et ces fines campanules qui se balancent, et ces jolies herbes brunes. Chaque touffe est un petit jardin. Quant à ce sorbier, il me prend le cœur simplement, poursuivit Charles en levant la tête. Mais je prétends que son nom devrait être féminin, car il est gracieux et fier et coquet comme une jolie femme. Mademoiselle de la Sorbière, je vous adore, s'écria-t-il en prenant une posture commode, les pieds allongés dans l'herbe et la tête appuyée sur un gros bloc qui dominait les autres. Juste, admire donc, ou je te renie. J'admire le lointain, répondit son ami, toujours juché sur sa barrière. Le lointain, voyons-le donc, ce lointain. Et Charles reprit tout d'un coup la position verticale, en abritant ses yeux de la main contre une lumière trop vive. La vallée, monotone et paisible, s'étendait devant lui, longue et à peine sinueuse, jusqu'aux derniers confins de l'horizon, semblait-il. Les pentes, qui de chaque côté la dominaient, s'enfuyaient avec elle par une ligne doucement estompée et mourante. Mais tout au fond, un géant à la silhouette bizarre les arrêtait brusquement. C'était le gros taureau dont la puissante masse d'un bleu sombre fermait l'horizon. Rien n'est simple et même pauvre comme ces paysages jurassiens. Cependant, la tranquille harmonie des contours onduleux, des teintes adoucies et du ciel souvent un peu voilé s'empare de l'âme irrésistiblement. Une poésie agreste flotte dans l'air avec le parfum du serpolet et le long bruissement du vent dans les sapins. Les Alpes sont plus belles, mais trop grandes. Elles écrasent. Le Jura vous prend par son charme intime, par sa poésie familière et sereine. Dans les Alpes, le touriste ébloui admire les sites grandioses, mais il ne s'écrie jamais « Plantons ici nos tentes et demeurons-y ». Sur les pentes ensoleillées du Jura, au contraire, on découvre à chaque instant de ces recoins charmants, faits pour une idylle et pour le bonheur. Charles le sentait très vivement et il s'écria tout à coup « Ami juste, avec la permission de ton père, je bâtirai mon chalet à l'ombre de ce mur et j'y coulerai des jours enchantés. » « Fort bien, monsieur l'ermite. Et que ferez-vous en hiver quand la bise soufflera, que la neige tourbillonnera et que les champs ressembleront à un grand cimetière ?»« Bro, fit Charles involontairement, quelles sottes images tu évoques là ! Eh bien, je me casematerai dans ma chaumière et j'écrirai un poème en 12 chants sur la retraite de Russie. Le paysage m'inspirera. » Mais Juste n'écoutait point. Il se balançait lentement sur sa barrière et regardait toujours le lointain d'un air rêveur. Ce tableau, dont il connaissait toutes les lignes depuis son enfance, réveillait en lui bien des souvenirs. Ces bruits familiers de la campagne étaient comme la voix douce et subtile du passé. Mais le lointain bleu, voilé, mystérieux, était l'avenir. Charles devina les pensées de son ami. « Tu regardes toujours trop loin, dit-il. Tes ambitions courent la poste devant toi et tu oublies de vivre dans le présent. Tiens, mon système à moi vaut encore bien mieux, bien que tu le regardes de haut. Je vis comme l'oiseau sur la branche, jouissant de tous les rayons et ne songeant pas plus aux orages de l'avenir qu'aux gouttes de pluie de l'an dernier. » Grâce à ton père, qui a pris la peine de venir au monde avant toi, dit Juste, ta fortune est faite, tandis que la mienne est à faire. Charles se boucha les oreilles avec un geste indigné. Le profane, s'écria-t-il, au milieu du repos sacré des champs, il parle de sa fortune à faire. J'aimerais autant, je crois, entendre le sifflet d'une locomotive déchirer l'harmonieux silence, comme dit le jeune poète que nous lisions ensemble hier. « Tu as raison, dit Juste, parlons d'autre chose. À propos, et cette histoire que tu voulais me raconter, cette œuvre humanitaire et romantique à laquelle tu vas te consacrer ?»« Toute réflexion faite, répondit Charles, je ne t'en dirai rien. » Et il reprit sa position nonchalante en tirant son chapeau jusque sur son nez pour s'abriter du soleil. Juste se mit à rire. « Avoue, dit-il, que ton histoire était une simple amorce pour me décider à sortir. »« Point du tout, c'est un drame rustique dont je médite le dénouement. Mais la discrétion est une vertu que j'ai trop peu cultivée jusqu'ici. Pour le moment, je garde mon secret, qui, d'ailleurs, appartient à d'autres. » Mystérieux comme un oracle, dit Juste. Pourtant, si ce caprice t'aide à passer le temps, je ne m'en plaindrai pas. » En ce moment, un appel prolongé se fit entendre. C'est ma mère qui nous avertit que le dîner est prêt, dit Juste. Elle n'aime pas à attendre. Au revoir donc, chère mademoiselle de la Sorbière, fit Charles avec un profond salut. Je reviendrai. L'après-midi de ce jour amena pour Cécile une découverte, insignifiante en apparence et dont elle ne souffla mot à personne, mais qui, cependant, changea le cours de ses sentiments. Le récit un peu dramatisé du danger qu'Étienne avait couru l'avait vivement ému et l'impression durait encore. D'où Jésus, pensait-elle, si cet accident avait des suites? Étienne était peut-être échauffé par la course et cet eau de neige est glacée. Ils n'ont pas continué leur route, mais sa mère l'aura-t-elle soigné comme il faut? Il est si imprudent, il pense si peu à lui-même. C'est qu'une fluxion de poitrine n'attend pas qu'on l'aille guérir, et on a déjà vu des garçons robustes qui sont morts d'un moindre accident. Elle n'osa pas confier ses inquiétudes à Madame Renaud, car celle-ci la sermonnait depuis longtemps au sujet d'Étienne. « Décide-toi donc, lui disait-elle, je veux bien qu'on tienne la dragée haute au garçon, mais il y a un à point dans tout, et si tu ne sais pas reconnaître un bon mari quand tu l'as sous la main, il pourrait bien t'échapper en fin de compte. Tu es encore bien jeune pour te marier, mais fiancez-vous et attendez tranquillement que 2 ans se passent. Vraie joyeuse, toutes ces lanterneries m'agacent. » Durant l'après-midi, Cécile ne fit qu'aller et venir comme une âme en peine, réprimant un désir impérieux de courir au nid du fol pour voir si chacun s'y portait bien. Jamais la possibilité de perdre Étienne ne s'était présentée à son esprit, mais aujourd'hui, le souvenir de sa bonté constante lui faisait à chaque minute monter les larmes aux yeux. « Que ferais-je sans lui ? » se disait-elle. Cependant, il n'était point dans son caractère de s'abandonner à des appréhensions lugubres. « Suis-je folle ? » se dit-elle enfin. « J'appelle le malheur. Peut-être aussi que M. Plaisance a exagéré l'accident. Il m'a tout l'air d'aimer à broder un tantinet. » Et elle chassa les idées noires en se mettant à chanter. Tout d'abord, sa voix tremblait un peu, mais elle s'éleva bientôt, plus claire et plus gaie, et Mme Renaud en fut toute réjouie. « À la bonne heure ! » s'écria-t-elle. « Je me demandais si tu allais devenir triste comme mon canari quand il mue. Allons, chante, ma petite, ça me change les idées à moi aussi. C'est que, vois-tu, les noces ont un côté rose et l'autre gris. C'est tout plaisir pour les gens de la danse et du souper. Pour les parents et les époux, c'est un grand saut dans le noir. On ne sait ce qui vous attend. Peut-être le bonheur en bonne amitié, peut-être les chicanes et les bisbilles. » Amener une jeune femme dans la famille, c'est mettre dans le poulailler une poule étrangère qui y fera un beau remue-ménage. Pourtant, comme Lucien a sa maison et que ma belle-fille semble assez pacifique, espérons que tout ira bien. Je connais mes devoirs d'ailleurs. Je relis chaque matin ma nourriture de l'âme au chapitre des relations domestiques où la patience et le support sont conseillés bien fortement. Ainsi moralisait Madame Justine, la tête couverte de son plus grand foulard, voulant indiquer par là que sa future qualité de belle-mère serait probablement une source intarissable de névralgie, mais qu'elle supporterait cette épreuve, comme les autres, avec résignation. Joyeuse repassait des faux cols. « J'espère que Monsieur Juste en sera satisfait, dit-elle, quoique je ne sache pas leur donner ce brillant pour lequel les blanchisseuses des villes ont un secret. » « Voyez, Madame Renaud, j'ai fait de mon mieux. J'ai marqué l'ourlet avec le coin du fer pour qu'ils aient l'air neufs. »« C'est bien, monte-les dans sa chambre et pose-les sur le lit. » Joyeuse n'était jamais entrée chez Monsieur Juste. Elle le savait sorti avec Monsieur Charles, et pourtant elle le heurta timidement à la porte, ne pouvant prendre sur elle de pénétrer sans cérémonie dans un lieu aussi auguste. La table était encombrée de papiers, d'instruments mathématiques et de la vie. Un gros livre gisait sur le plancher, tout grand ouvert. Des plumes d'oie noircies d'encre étaient jetées pêle-mêle sur un grand plat de faïence d'urbino jaune et bleu que Joyeuse trouva fort laid. Elle ferma à demi les volets contre le chaud soleil de l'après-midi, puis se demanda s'il y aurait trop de hardiesse à ramasser le pauvre livre tombé à terre. Elle s'y décida, non sans quelques doutes encore, et le posa soigneusement au coin de la table. Pour cela, elle dut écarter une grande feuille couverte de dessins bizarres, lignes rouges et noires entremêlées, qu'elle n'osa regarder de trop près, se demandant ce que monsieur le curé en penserait, car il avait prêché une fois contre les ingénieurs et les chemins de fer, et elle savait bien que monsieur Juste construisait des chemins de fer. Cette feuille cachait un objet que la main de Joyeuse heurta. Très effrayée, la jeune fille rougit de confusion, comme si monsieur Juste eût été témoin de sa maladresse. « N'ai-je rien cassé ? » s'écria-t-elle. « Qu'est-ce que c'est ?» Soulevant la feuille, elle vit un fort joli cadre d'ivoire finement sculpté, appuyé par un support et contenant une photographie. C'était le portrait d'une cantatrice que Juste avait entendue l'hiver précédent à la Scala et dont la voix suave, aussi bien que le visage charmant, lui avait inspiré un enthousiasme sans précédent. Charles s'était raillé de ce caprice et, passant un jour dans un bazar, avait acheté cette photographie et son cadre dont il avait fait cadeau à Juste. Joyeuse n'avait jamais rêvé une beauté aussi parfaite. Ses yeux veloutés, pleins de langueur et de passion, les lignes pures de ce profil antique, ce cou de cygne, cette riche chevelure, tout, jusqu'à l'étrangeté de ce costume de Désémone, semblait appartenir à un autre monde, le monde des magiciennes et des étoiles. « C'est donc ainsi que sont les Italiennes, » pensa Joyeuse, aussitôt qu'elle fut assez remise de sa vive émotion pour penser à quelque chose. « Sainte Vierge, qu'elle est belle !»« Que fais-tu donc là-haut si longtemps ?» cria Madame Renaud du pied de l'escalier. « Je descends, » répondit Joyeuse toute tremblante. « J'ai fermé les vantaux et ramassé un livre qui traînait, madame. »« Mais tu n'as pas touché au papier, j'espère. Juste ne peut souffrir qu'on les mette en ordre. » Joyeuse ne répondit rien. Elle se pencha pour arranger les fers à repasser autour du réchaud et Madame Justine put croire que la réverbération du feu seul lui enflammait les joues. Tout au fond du cœur, sous son grand émoi, Joyeuse Vadien se sentait en réalité soulagée. Elle avait aimé Juste absent, d'un amour humble, timide et assez fragile, il faut l'avouer, comme tous les sentiments faits d'imagination et de rêverie. Quand le jeune homme avait paru, le désenchantement avait commencé. Il ne prenait point garde à elle, on voyait bien qu'il était perdu dans ses grands projets. S'il l'avait traitée en petite sœur, ainsi qu'il avait coutume de faire autrefois, peut-être eût-elle continué à l'aimer de loin, fidèlement. Mais il ne la voyait pas, il regardait bien au-delà et bien plus haut. Involontairement, elle lui compara Étienne, dont le dévouement discret lui avait semblé jusqu'alors assez naturel. L'incident de la matinée lui révéla tout à coup combien il lui était indispensable et précieux, combien leurs deux vies étaient liées l'une à l'autre, et quelle serait sa douleur si elle le perdait. Non que, remise de son premier effroi, elle craignit encore pour la santé d'Étienne, mais il pouvait se lasser d'une trop longue attente et trouver ailleurs une jeune fille qui fît moins la capricieuse et la renchérie. Cependant, le cœur naïf de Joyeuse tremblait encore et ne pouvait se décider. Le portrait de la belle cantatrice fit pencher la balance. Car Cécile ne douta pas un instant que ce ravissant visage ne fût celui de la promise de Juste. Autrement, lui aurait-elle donné sa photographie ? Joyeuse pouvait donc maintenant dénouer ce dernier lien de fidélité qui la retenait encore, même elle le devait, puisque Juste appartenait à une autre. Et ce fut de très bonne grâce qu'elle le fit, bien qu'avec un léger soupir. D'un geste, elle congédia le passé, les rêveries aux rouées, les timides espérances et toutes ces folles compagnes d'un amour d'enfant. Elle se sentit plus femme après cet adieu, puis elle reprit sa chanson, ses vieux couplets qui faisaient rire les filles du nid du fol. C'est dans les heures de paresse que le cœur s'ouvre au mal d'amour. Que la quenouille soit maîtresse, elle le chasse pour toujours.